Voilà, Cécilia, bonjour et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous.
Voilà, Cécilia, je vais vous laisser peut-être vous présenter d'abord à nos auditeurs, en quelques mots.
Oui, avec plaisir. Alors, je suis romancière, je suis aussi essayiste. J'ai une ligne spirituelle assez marquée dans mes ouvrages, particulièrement pour les essais. Et puis là, évidemment, pour le dernier ouvrage dont vous venez de parler et qui vient de sortir aux éditions Talendier, donc L'Amoureuse, le roman de Marie-Madeleine. Par ailleurs, voilà, je suis l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, parmi lesquels on peut citer, par exemple, L'Âme de fond, qui a été publié chez Albin Michel et qui a reçu le prix Charles ou le monde de la Fondation de France, d'autres ouvrages comme Zéna Bachapoche qui est paru au Rocher ou Vivre libre avec Etil Soum qui a été couronné du prix humaniste Louis Marin. Et j'ai consacré trois essais à la figure spirituelle d'Etil Soum et par ailleurs je préside l'association des amis d'Etil Soum qui est reconnue d'utilité publique. Voilà, et donc je suis avec vous aujourd'hui pour parler effectivement de ce nouveau roman, L'Amoureuse, le roman de Marie-Madeleine. Qui est sélectionné d'ailleurs pour le Grand Prix méditerranéen de littérature et de spiritualité et qui effectivement vient de paraître aux éditions Talendier autour donc de cette figure eh bien lumineuse, hein, je trouve absolument lumineuse, qu'est Marie-Madeleine.
Voilà, on précise effectivement, donc c'est un roman. Alors c'est un roman qui s'appuie sur avec des comme source les Écritures, bien sûr.
Tout à fait.
Et vous racontez un petit peu tout le cheminement de Marie-Madeleine. Alors peut-être sans dévoiler bien sûr le contenu, mais qu'est-ce qui vous a attiré dans cette figure de Marie-Madeleine et qu'est-ce que vous nous dites sur elle à travers ce roman?
Alors, le personnage de Marie-Madeleine, moi, il m'a toujours fascinée et bouleversée. Hein. C'est un parcours, Marie-Madeleine, qui va de la terre vers le ciel, du charnel au spirituel. Et c'est quelque chose qui me touche au plus profond parce que quelque part, elle nous prend par nos failles et nos faiblesses pour nous emmener vers la lumière. Alors, c'est vraiment un personnage qui symbolise pour moi bien la femme avec un grand F dans son désir de séduction et aussi dans ses écueils, mais aussi dans ses tentatives d'émancipation, parfois mal conduites, mais dans l'expérience qu'elle fait finalement, je dirais, de la vraie liberté, hein, celle qui s'affranchit des modes, hein, du regard de l'autre, du regard masculin aussi, et qui se gagne à l'intérieur de soi dans cette découverte qu'elle fait d'un soi plus grand que l'ego et qui s'ouvre, hein, à cette dimension magnifique, la dimension spirituelle de la vie pour accueillir finalement Dieu, pour accueillir le Père. Alors voilà, donc c'est vrai que la figure de Marie-Madeleine, elle n'est pas si bien connue que ça. Finalement, dans la tradition la plus ancienne de l'Église, qui a été relayée depuis des siècles, hein, par la piété populaire, eh bien Marie-Madeleine, c'est trois figures féminines évangéliques qui sont la pécheresse pardonnée anonyme, hein, de Luc, oui. La deuxième figure, c'est Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et Lazare et l'amie de Jésus, et puis la courtisane de Magdala, celle que finalement on retient le plus, mais qui n'est pas qui n'est qu'une des figures, parce que ces trois femmes sont Marie-Madeleine. Et mon travail en fait de romancière, ça a été de comment lier en fait ces trois figures, comment expliquer le parcours de Marie-Madeleine à partir de ces trois figures. Et ça m'a paru assez évident parce que finalement, pour moi, ces trois figures sont finalement trois grandes étapes dans la vie de cette femme. La courtisane étant une première étape, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche finalement un amour, mais un amour un peu pauvre, en se lançant dans un jeu de séduction mal conduit finalement, et puis qui se rend compte au bout d'un moment que cette vie mal conduite, que cette vie qu'elle mène, qui est un peu dévoyée, ne l'a éloignée en fait d'elle-même. Et grâce à cette rencontre qu'elle va faire avec Jésus, elle va décider de tourner le dos à cette quête en fait amoureuse, mais encore une fois qui l'a éloignée d'elle-même, pour toucher du doigt autre chose, en fait. D'abord, grâce à Jésus, pour comprendre que l'amour est plus grand que cette, je dirais, héros triomphant des tout débuts et balbutiant dans lesquels elle s'est un peu fourvoyée, et comprendre qu'il y a donc d'abord, à travers cette amitié qui va se tisser avec Jésus, puisqu'elle va le suivre hein, sur les routes de Palestine, elle va être enseignée par lui, et elle va comprendre qu'il existe un autre amour, un amour d'amitié, de complicité, de solidarité, de complémentarité entre hommes et femmes. C'est tout ça qu'elle comprend aussi aux côtés de Jésus. Et puis, évidemment, elle va s'ouvrir là, peu à peu, hein, tout en écoutant et en voyant, en étant témoin des prêches de Jésus, eh bien, à l'amour plus grand, l'amour universel, l'amour de Dieu. Et donc, voilà, j'ai trouvé que c'était très beau, ce personnage qui va suivre Jésus et qui va aussi être l'idée du roman, c'est aussi de montrer par des yeux féminins eh bien, tout le parcours aussi de Jésus, et elle va évidemment assister aussi, je vais vite, mais le roman fait 300 pages, mais elle va évidemment assister aussi à la passion, elle va être un des premiers témoins, elle va même l'anticiper, puisque prophétiser, elle comprend en fait ce qui va se passer, mais bien avant la mort de Jésus, et puis elle sera cette femme, la première à qui Jésus fait l'insigne honneur d'apparaître au matin de Pâques et qui va aller porter ensuite cette bonne nouvelle de cette vie en Dieu et cette belle parole de par le monde. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Marie-Madeleine, on l'appelle l'apôtre des apôtres parce qu'elle est la première en chemin, si j'ose dire.
Et oui, parce que tout ce parcours est extraordinaire, parce qu'on va jusqu'au temps, elle est témoin de la passion, elle est au pied de la croix, elle est témoin également, bien sûr, de la résurrection, et c'est elle qui annonce.
Voilà. Et puis ensuite, vous savez que là s'arrêtent les évangiles. Moi, j'étais très fidèle dans mon roman aux évangiles, hein, parce que je trouve que c'était très important, en fait, parce que justement, à travers le personnage de Marie-Madeleine, les évangiles nous parlent de beaucoup de choses, hein, sur la féminité, sur la libération, sur la libération intérieure de ce personnage, sur l'élévation aussi à laquelle nous sommes tous appelés. Mais vous savez qu'après les évangiles, il y a aussi toute la légende provençale autour de Marie-Madeleine, cette légende, mais tout à fait plausible d'un point de vue historique, selon laquelle Marie-Madeleine serait arrivée en Gaule et en Provence tout particulièrement, et toute la dernière partie de sa vie, après avoir prêché en terre provençale et évangélisé, hein, première communauté chrétienne, eh bien, elle se retire à cette fabuleuse grotte dans le massif de la Sainte-Baume, où là, elle va vivre en ermitage les 30 dernières années de sa vie, en union totale avec le Seigneur, dans une extase mystique magnifique, et qui aussi nous élève, en fait. C'est aussi très beau, ce parcours, cette fin en union totale avec le Seigneur. Je trouve ça magnifique. Donc j'ai voulu dans le livre aussi continuer après les évangiles et parler de cette légende provençale en la réinterprétant, hein, par mes yeux de romancière, mais pour justement aussi parler de toute cette partie, en fait, fin de vie que je trouve absolument magnifique et lumineuse.
C'est justement aussi un itinéraire, vous l'avez dit, Cécilia, spirituel, hein, avec la découverte de l'amour au bout de ce chemin, l'amour avec Dieu. Et en même temps, c'est un itinéraire qui peut parler à des femmes d'aujourd'hui.
Ben complètement, parce que quelque part, la façon dont elle se fourvoie au début, dans cette, c'est quelqu'un qui, moi j'en ai fait en tout cas une petite rebelle, en fait, qui refuse le statut étriqué qu'une jeune juive à l'époque contendait à une jeune juive à l'époque, c'est-à-dire être une mère, être une épouse, être une mère, et puis donner surtout un fils à son époux. Elle le refuse, et c'est pour ça qu'elle fuit, et elle va aller complètement à l'opposé de ce à quoi finalement elle aurait été destinée, en allant sur les rives de Magdala, donc sur des rives essentiellement, on va dire, en terre entre mille guillemets romaine, parce que c'est vrai qu'elle va intégrer la cour d'Hérode Antipas. Et là, c'est là qu'elle va avoir des mœurs un peu effectivement dévoyées, pensant gagner sa liberté dans cette séduction, dans cet éros triomphant, dans cette pleine féminité, si j'ose dire, mais un peu trop, peut-être un peu très mal conduite, en fait, dans un premier temps de sa vie, pour se rendre compte qu'en fait, la liberté n'est pas forcément la liberté de faire n'importe quoi de son corps, et pour comprendre que la liberté, ça se gagne d'abord à l'intérieur de soi, en s'affranchissant justement du regard peut-être de l'autre, du regard surtout masculin porté sur sa personne, et en allant vers quelque chose de plus doux finalement, à travers donc cette amitié dont je parlais tout à l'heure avec le Christ, eh bien elle apprend une autre façon d'être au monde et une autre façon d'être avec l'autre et avec aussi dans le rapport homme-femme. Moi, je trouve que c'est une héroïne très moderne, en fait, parce que on parle beaucoup en ce moment, malheureusement, bien sûr, c'est bien le féminisme, mais c'est vrai qu'on est souvent dans une guerre des sexes à notre époque. Et là, par le biais de cette figure magnifique qu'est Marie-Madeleine et par ce qu'elle comprend elle-même, eh bien, on peut aussi toucher du doigt cette magnifique amitié qu'il peut y avoir aussi entre hommes et femmes, et cet amour, je dirais, d'agapé, cet amour de don qu'il peut y avoir aussi, et qui est beaucoup plus finalement doux, peut-être plus facile aussi à conduire que cet éros très triomphant de son début de vie où elle est un peu éparpillée au fond.
Et on le sait en parcourant les évangiles que Jésus avait des disciples, alors le cercle des disciples rapprochés, mais il y avait beaucoup plus de monde que ça qui le suivait. Et il y avait femmes, l'évangile nous le dit, il y avait des femmes, dont Marie-Madeleine d'ailleurs.
Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Il y avait Jésus aimait, mais là au sens noble du terme, c'est-à-dire aimait les femmes et d'être entouré aussi de femmes. Il y avait bien sûr les 12 apôtres, mais il y avait aussi des femmes qui avaient aussi tout quitté pour suivre Jésus. Il avait ce charisme et d'ailleurs, ça n'était pas banal du tout à l'époque. Je veux dire, il était lui-même, je trouve finalement un grand libérateur des femmes puisqu'il ne les enfermait pas non plus dans leur rôle de mère et d'épouse. Il y avait effectivement toute une cohorte de femmes. Alors, on dit que Marie-Madeleine était l'amie, la préférée de Jésus. Je pense vraiment que autant il la révèle sa vraie féminité, une féminité épanouie, resplendissante, en la restaurant, en la guérissant finalement, autant je pense que peut-être qu'on peut penser que Jésus avait aussi besoin de ce regard féminin, amical, complice, solidaire, pour aller au bout d'une mission qu'il savait terrible et même tragique. C'est quand même très très dur ce qu'il va vivre. Il y est résolu, mais il a peut-être besoin de prendre des forces, et c'est aussi l'idée du roman de dire que peut-être qu'il puise aussi des forces dans ce regard féminin tendre, en fait, que Marie-Madeleine porte sur lui. Je trouve ça très beau, ce binôme finalement.
Oui, c'est important ce que vous dites sur effectivement par rapport aux mœurs de l'époque. On le sait, donc vous l'avez dit. D'ailleurs, la femme était, elle était la propriété de l'homme. Elle était là pour assurer aussi une descendance au mari.
Oui.
Marie-Madeleine va échapper à ce carcan, ce qui ne devait pas être quand même évident à l'époque. Et cette figure subversive, elle rejoint la figure subversive de Jésus, qui accepte d'avoir des femmes autour de lui, et la figure également subversive qu'on verra, on retrouvera aussi chez saint Paul, ni esclave, ni homme libre, ni juif, ni grec, où l'homme est une totalité avec ses frères, unis à Dieu le Père. Donc c'est vraiment, parce qu'on pense au mouvement subversif des années 60 par exemple, mais c'était déjà là dans le christianisme.
Mais complètement, mais c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une figure très moderne. Et d'ailleurs, je trouve aussi que Jésus est une figure très moderne. Vous avez parfaitement raison, c'est complètement, entre guillemets, transgressif par rapport à l'époque, tout ce qui s'est passé pendant ces 3 ans. Et c'est aussi ça que le roman souhaite mettre en lumière. Vous avez tout à fait raison.
Voilà, et ça se lit, il faut le dire, ça se lit justement facilement, parce que le fait que ce soit un roman, c'est vraiment une histoire qui se déroule, et on suit l'histoire de Marie-Madeleine très très facilement, quoi.
Bah c'est gentil. En fait, moi, je suis allée faire un pèlerinage en Terre Sainte. Avant le Covid, j'ai eu cette chance de pouvoir le faire. Et c'est vrai que de voir en fait où s'est passé tout ça, ça a été beaucoup plus simple ensuite pour moi. J'ai essayé de faire des tableaux très colorés. Je suis restée très fidèle à la toile de fond historique, hein, qui est quand même très importante et très foisonnante. C'est une période aussi qui est très intéressante, où il s'est passé quand même beaucoup de choses. C'est à mon avis pas du tout un hasard que Jésus soit arrivé dans cette période-là, politiquement, je parle, et sur le plan de la foi d'ailleurs. Je pense qu'il y avait une maturité qui permettait sa venue. Et puis effectivement, très fidèle aux évangiles, mais par ailleurs, j'ai essayé de faire des tableaux, rythmés, colorés. Ça reste un roman, hein. Il y a quand même une partie fictionnelle, c'est-à-dire que j'ai aussi donné mon regard, moi, de romancière, je dirais, dans les trous de l'évangile, en prenant ces trois figures que j'ai rappelées, qu'est Marie-Madeleine. J'ai pu tisser un petit peu, imaginer la vie qu'avait menée cette jeune juive du 1er siècle. Voilà.
Et oui, et d'ailleurs, tout à la fin, vous avez la petite page des remerciements, quelques noms d'ailleurs qui sont cités, notamment des frères de la Sainte-Baume, hein, je crois.
Oui, où je suis allée plusieurs fois pour parler à la fois, alors d'abord pour parler d'Etilsoum, très étonnamment, parce que finalement, Etilsoum a un parcours pas du tout le même que Marie-Madeleine, bien sûr, mais en même temps, dans ce qui va de la terre vers le ciel, du charnel au spirituel, on peut retrouver certains éléments. Et j'étais venue faire une session, en fait, pour en parler, voilà, à leur public, et puis ensuite pour venir faire une session sur Marie-Madeleine. Et là, je suis retournée il y a une semaine pour le lancement du livre à la Sainte-Baume, où j'ai eu cette chance et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé avec les frères dominicains de la Sainte-Baume qui m'ont d'abord magnifiquement accueilli, et je crois qu'on est un petit peu sur la même ligne sur la façon de voir Marie-Madeleine, et c'était intéressant d'échanger avec eux. Et puis c'était un lieu magnifique, hein. Je suis allée à la messe à la grotte, c'est juste somptueux. Marie-Madeleine, oui. on la ressent là, elle est là, hein.
Un endroit magnifique, absolument. Alors, oui. Je rappelle donc le titre, hein, c'est L'Amoureuse, en sous-titre Le roman de Marie-Madeleine, écrit par vous, Cécilia Deuteur. C'est aux éditions Talendier.
Oui, tout à fait, tout à fait.
En tout cas, merci beaucoup pour ce partage avec les auditeurs de Radio Maria France, pour
merci
nous avoir parlé de votre livre.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Merci, au revoir Cécilia.
Merci. Au revoir.